Chers auditeurs, dans le cadre des émissions consacrées aux élections législatives de la deuxième circonscription d'Eure-et-Loir, je reçois aujourd'hui dans les studios de Radio Grand Ciel l'un des candidats, Olivier Marleix, député, qui brigue aujourd'hui un troisième mandat. Monsieur Marleix, bonjour.
Bonjour, Madame Guimaraes.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vos dernières communications, vous êtes très présent sur les réseaux sociaux. Vous faisiez état des médias moutonniers. Vous pensez à certains médias en particulier ?
Non, je pense un peu à tous, malheureusement. Il n'y a pas beaucoup, enfin, sauf à Radio Grand Ciel. Mais autrement, dans le sujet, c'est notamment, ça fait un mois que dans les ministères, tout le monde a fait ses cartons, qu'il n'y a plus de ministre, que le Premier ministre a fait son dîner de départ. Et ça fait un mois qu'il n'y a plus de gouvernement dans ce pays parce que le président de la République a décidé de jouer la montre. Voilà. Et je trouvais ça assez scandaleux qu'on joue la montre, qu'on refuse qu'il y ait un débat autour de cette élection législative. Pourquoi est-ce que le président ne nomme pas de Premier ministre ? C'est parce qu'il sait que nommer un Premier ministre, nommer un gouvernement, ça veut dire mettre une feuille de route de ce gouvernement sur la table. Et la feuille de route, il ne veut pas la sortir, parce que la situation va être très compliquée et qu'il ne veut pas le dire aux Français.
En fait, le Premier ministre est là pour exécuter le programme du président.
Oui, bien sûr. Alors, le programme dans la campagne présidentielle, on n'a pas tellement compris ce qu'était le programme du président. Moi, personnellement, j'ai essayé, mais j'ai eu du mal à comprendre. Et on a besoin, non, c'est une question de débat, de temps de débat démocratique. On a eu une campagne présidentielle qui a été très escamotée. Le président a voulu rentrer en campagne très très tard. C'est le président qui est rentré le plus tard, je crois, dans la 5e République, en campagne. Et là, il fait en sorte qu'il n'y ait pas de campagne législative. Parce qu'il sait que la campagne législative, ce sera le moment où il faudra jouer carte sur table avec un gouvernement, un premier ministre, des ministres à qui on posera des questions. Alors, c'est quoi votre feuille de route? Qu'est-ce que vous allez faire? Et le président de la République ne veut pas de cette heure de vérité. Voilà. Et donc, je pense que c'est assez grave et je ne comprends pas que les médias ne s'en plaignent pas.
Se peut-il justement que les résultats des élections soient influencés par les médias, particulièrement par les chaînes de télé d'information continue, BFM TV, CNews, LCI, France Info ?
Bien sûr, regardez la façon dont aujourd'hui ça a toujours été plus ou moins le cas, mais la façon dont par exemple, on essaye de nous mettre dans la tête un nouveau vote utile. Donc, il y a eu le péril brun il y a quelques semaines, l'élection présidentielle, il fallait voter pour Macron parce qu'il y avait le péril brun, et maintenant, c'est le péril rouge. Il faut voter pour Macron aussi, toujours, parce que maintenant, il y a un risque Mélenchon. Alors, vous voyez, c'est cette espèce de vote utile dont les médias nous rebattent les oreilles, sans aucun discernement, sans aucun esprit critique.
Mais à propos de M. Mélenchon, qui se voit Premier ministre, est-ce que dans le cas où son parti arriverait en tête à l'Assemblée nationale, M. Macron serait obligé
non, mais
de
pardon,
le prendre
tout ça est une
comme
plaisanterie.
Premier
tout ça, c'est de la com, c'est une plaisanterie. Le parti de M. Mélenchon, c'est 17 députés aujourd'hui. 17. Le Parti communiste, c'est 15. Et le PS, 27. Si vous mettez tout ça bout à bout, aujourd'hui, vous êtes à moins de. Vous êtes à 60 députés.
Sur 577.
Sur 577. Alors, imaginons qu'il gagne une quarantaine, cinquantaine de circonscriptions, ce qui sera sans doute le maximum sur les gens qui connaissent réellement la carte électorale. Le parti de Mélenchon ne sera jamais qu'à 60 députés, grand maximum. Les Républicains, aujourd'hui, c'est 100 députés. Nous sommes le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale et je pense que nous le resterons.
Vous espérez que vos collègues seront réélus ?
Oui, écoutez, la plupart des députés des Républicains aujourd'hui sont des gens qui ont été élus face à une vague très forte la dernière fois, enfin face à deux vagues très fortes d'ailleurs, en 2012 pour M. Hollande, en 2017 pour son jeune apprenti M. Macron. Je pense qu'il n'y aura pas de vague pour M. Macron législatif cette fois-ci, il n'y aura pas d'amplification. Donc je pense que les députés Les Républicains, une fois encore, la centaine de députés sortants sont des gens qui, s'ils ont fait le travail dans leur circonscription,
vous êtes très implantés dans votre territoire.
Les républicains en général dirigent la moitié des communes de France, les deux tiers des départements, la moitié des régions. Donc le score de Valérie Pécresse, qui était évidemment une contre-performance, ne signifie pas l'extinction des républicains qui restent le premier parti d'opposition.
Vous venez d'annoncer votre candidature pour votre troisième campagne avec votre suppléante Christelle Minard, entourée de Christophe Le Dorven, président du conseil départemental, et de Pierre-Frédéric Billet, le maire de Dreux. Est-ce que leur soutien est important?
Oui, c'est important parce que, en fait, moi, j'essaie d'être. On parlait du vote utile tout à l'heure. Moi, j'essaie d'être un député utile. Et comment est-ce qu'on est un député C'est quoi être un député utile? C'est trois choses. On pourrait y revenir. C'est utile d'abord à ses concitoyens. On est là pour écouter les gens, les recevoir, ce qui permet de détecter les dysfonctionnements dans le pays, ce qui marche pas, détecter les difficultés hein, du pays.
Justement parce que vous êtes au plus près des
Parce
territoires.
qu'on voit les gens, parce qu'on reçoit. Moi, je reçois chaque année, enfin, au total, dans ce mandat, j'ai reçu 1 500 personnes. C'est beaucoup de monde. Le lundi, le vendredi, je reçois des gens à Dreux. Le samedi, je les reçois sur Annette. Et le vendredi matin, je tourne entre Châteauneuf, Senonches, La Ferté-Vidame et Brozolles, Saint-Lubin, pour être toujours accessible. C'est un formidable capteur. Enfin, on peut pas
Et
être.
quand vous dites vous tournez, j'ai vu que vous étiez récemment, il y a 5 ou 6 jours, sur un marché où vous rencontriez des
Là, on a un
gens.
peu plus de, pendant une
Vous
campagne
goûtiez
électorale, en
les
fait,
produits
on
d'ailleurs.
a plus de temps pendant une campagne électorale, donc on peut faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude, notamment aller sur les marchés, enfin on le fait, mais
Mais les gens sont
voilà,
contents de vous
un
voir,
peu plus,
probablement.
oui, en général, l'accueil est plutôt sympathique. Donc un député utile, c'est d'abord quelqu'un qui est au service de ses concitoyens, qui a sa porte ouverte, ce que j'essaie de faire. C'est un député utile pour son territoire, et trois, un député utile à l'Assemblée nationale. Le fait d'être, de m'afficher, si je puis dire, avec le maire de Dreux, le président du département, ça montre que dans cette circonscription, aujourd'hui, tous les élus vont dans le même sens. Et ça, c'est une chance formidable. Il y a quatre cantons avec deux binômes. Donc les huit conseillers départementaux sont des amis. Je les ai tous soutenus. Ils ont tous été élus ou réélus extrêmement extrêmement bien. Donc ils sont des gens eux aussi très ancrés. Soit sur le canton d'Annette, sur le grand canton de Saint-Lubin, sur les deux cantons de Dreux. Les deux présidents, il y a deux intercommunalités, l'agglo de Dreux, l'agglo des forêts du Perche. On travaille tous ensemble et c'est ce qui fait qu'on fait avancer les dossiers de notre territoire. Prenez le cas le plus emblématique, de la reconstruction de l'hôpital de Dreux. 100 millions d'euros de subventions que nous avons obtenues pour reconstruire cet hôpital. C'est une décision qui était inespérée il y a 5 ans encore.
D'ailleurs, vous avez annoncé votre candidature devant l'hôpital de Dreux.
Oui,
C'est un
mais parce que
symbole.
ça montre à monsieur, qu'il n'y a pas besoin d'être forcément le Playmobil de la majorité, t'es en marche par exemple, pour être utile à son territoire, pour obtenir des choses, pour
Et
défendre
cet
son
hôpital va
territoire.
être non seulement transformé, mais
Bah,
reconstruit.
totalement, totalement reconstruit.
À neuf.
La situation était tellement pourrie il y a 5 ans à l'hôpital que Madame Buzyn, ministre de la Santé de l'époque, peut-être d'elle, quand elle était venue à Dreux, invitée par la candidate En Marche, entre les deux tours d'élection, avait fait le choix d'éviter l'hôpital. D'éviter l'hôpital. Moi, ça m'avait tellement choqué que du coup, j'étais allé le même jour à la même heure faire un point presse à l'hôpital en disant, si je suis réélu député, moi, je me battrai pour l'hôpital. Ce que fait Madame Oud, qui fait venir ministre de la Santé et n'est pas foutue de la faire venir à l'hôpital, est scandaleux. Cet hôpital, c'est 2 200 personnes qui y travaillent. C'est le cœur de l'offre de soins sur notre territoire et on sait à quel point l'accès aux soins est quelque chose de compliqué. Et donc, j'avais décidé d'en faire ma priorité. Et parce qu'on a bien travaillé tous ensemble, parce que les élus ne se tirent pas dans les pattes
C'est très
dans
important,
ce
tous dans le même sens,
département,
quoi.
eh ben on arrive à faire avancer notre territoire.
C'est très important, effectivement. Donc, vous commencez votre troisième campagne. Est-ce le moment de regarder ce que vous avez accompli? Beaucoup de choses dont vous êtes certainement satisfait,
Bah,
peut-être?
je dis, moi, je me suis efforcé d'être un député utile d'abord pour mes concitoyens, 1 500 personnes reçues. Vous savez, on fait des petits, j'ose pas employer le mot ici, du grand ciel, mais on fait des petits miracles quoi pour les gens.
Et pourquoi pas?
Le député, j'ai entendu cette expression un jour en écoutant la radio. C'était un député communiste qui disait ça. Il disait, le député, c'est la relation des gens qui n'ont pas de relation. Celui qui est capable de régler des problèmes. Moi, je me souviens un jour, je reçois un monsieur, la CAF lui demandait 50 000 euros de trop perçus, 50 000 euros, hein, pour des APL qu'il avait payé pour qu'il paye les traites de sa maison. C'est un monsieur qui était handicapé, qui ne pouvait plus travailler. Et donc, la CAF était intervenue. Il lui demandait de rembourser 50 000 euros, considérant qu'ils avaient escroqué. En fait, la CAF s'était juste plantée, s'était juste trompée. Simplement, lui, il avait essayé de faire valoir ses droits, donc il était de bonne foi, faites le 1, faites le 2, faites le 3 au téléphone. Évidemment, il n'avait pas eu de réponse. Au guichet, on lui avait dit, écrivez, on vous répondra ou pas. Voilà, moi j'ai pris une heure pour recevoir.
Il a pensé donc à s'adresser à vous.
Oui, c'est quelqu'un de la CAF qui a eu la gentillesse de lui dire, écoutez, s'il y en a qui peut peut-être vous aider, c'est aller voir le député. Et j'ai pris une heure pour éplucher son dossier. Et au bout de 50 minutes, j'avais trouvé un document qui prouvait qu'il était de bonne foi et que c'était la CAF qui s'était trompée. Il serait pas venu me voir, sa maison aurait été vendue. Parce qu'elle aurait été saisie pour payer la dette et il aurait été envoyé au tribunal correctionnel. Donc on fait ces petits miracles, sincèrement, c'est la plus grande satisfaction qu'on a quand on est député d'utiliser ce petit privilège qu'on a, qui est de pouvoir accéder au préfet, au ministre, au grand directeur des administrations.
Vous diriez presque que c'est quelque chose de très important, vous êtes presque là pour ça, quoi.
Moi, c'est ma première motivation, c'est ma première source de, sincèrement, c'est ce qui vous rend le plus heureux de faire ce que vous faites, c'est quand vous avez sorti des gens de la panade, quoi. Et que vous savez qu'ils ne seraient pas venus vous voir vous, ils seraient dans la, ils auraient été dans
Toujours
le,
dans la panade.
ils auraient été dans la panade, quoi. Et parfois, c'est parfois de manière grave. Donc d'abord, voilà, être utile à ses concitoyens, se battre pour son territoire. On a parlé de la reconstruction de l'hôpital, qui va rendre service quand même à tout notre territoire, qui va améliorer les conditions de travail des 2200 agents qui y travaillent. Mais il y a des réalisations un peu partout dans ce territoire, hein. On a reconstruit une gendarmerie à Senonches, qu'on inaugurera bientôt. On a reconstruit deux collèges. On a fait la déviation. On démarre une déviation à Châteauneuf qui était attendue depuis 50 ans. Tout ça, c'est des dossiers sur lesquels qui ne sortent que parce que vraiment on travaille tous ensemble, que moi je prends ma part en tant que député pour mettre la pression sur l'État, avec un petit savoir-faire en la matière. J'ai été conseiller d'un président de la République, je sais quelle porte il faut frapper, quels sont les arguments à utiliser. Voilà, et puis enfin, député utile, c'est évidemment au Parlement. Où j'essaie d'être je suis dans l'opposition, j'ai pas peur de le dire, je partage pas les valeurs, si tant est qu'il y en a d'ailleurs, je partage pas l'absence de valeurs plutôt d'Emmanuel Macron. Moi, je porte des convictions, mais on peut porter ses convictions en essayant d'être et en voulant être positif. C'est pas de l'opposition bête et méchante.
Et vous
D'ailleurs.
pensez que c'est indispensable à l'Assemblée nationale, il faut vraiment une opposition.
Oui, alors il y a la Chine communiste qui a essayé de faire sans, mais même eux, ils ont rétabli un peu de démocratie. Aujourd'hui, ils ont trouvé le besoin qu'il y ait un tout petit peu de pluralisme dans des élections locales, il y a des gens qui votent, etc. Oui,
Mais c'est peut-être moins
il y a qu'en
facile
France
aujourd'hui.
aujourd'hui qu'on nous explique qu'il faudrait pas. Ce que fait
Avant, il y avait la
philosophiquement.
droite, la gauche.
Je pense que c'est nécessaire d'avoir des confrontations d'idées. Après, il ne faut pas être stérile dans l'opposition, il faut savoir travailler ensemble. Moi, vous savez, je fais à l'Assemblée, je suis assez fier d'avoir fait des propositions qui ont été applaudies parfois de l'extrême gauche à l'extrême droite, en
Vous
passant par l'extrême centre.
siégez à la commission des lois de l'Assemblée nationale.
Oui.
Qu'est-ce que vous appelez l'extrême centre?
L'extrême centre, c'est ce qui est au pouvoir en ce moment. C'est ce qui vous dit qu'il n'y a que les idées du président qui comptent et que tous les autres ne doivent pas exister ou ne sont que des extrêmes. Moi, j'avoue que je suis très mal à l'aise dans cette espèce de négation aujourd'hui du débat politique. En clair, on a un président de la République qui veut incarner à lui tout seul et la droite et la gauche. Donc, il prive les Français de ce débat entre une droite et une gauche. Il y a beaucoup de sujets où on a des visions de droite ou des visions de gauche. Je pourrais parler par exemple du débat sur l'euthanasie qui va venir pendant ce quinquennat. Donc on n'a pas le droit de priver les Français de ce débat, de ces clivages assez naturels dans la société. Après, donc aujourd'hui on a un président qui dit non, je suis et la droite et la gauche, et donc le débat il est chez moi. Et après il n'y a que des extrêmes qui par définition ne sont pas des options possibles, ne sont pas admis au débat. Ça peut pas être ça la démocratie. Voilà. Donc chacun doit faire son rôle, mais je viens, on peut être une opposition efficace. Vous savez, les députés de la majorité aujourd'hui, ils sont tellement, ils se voient tellement comme les porte-parole du président de la République que ils ne jouent pas leur rôle, ils ne peuvent pas jouer leur rôle. Si on a un exécutif et un législatif, c'est parce qu'il y a besoin, dans une démocratie, on le sait depuis Montesquieu, ça fait quelques siècles maintenant, il y a besoin d'équilibre des pouvoirs, il y a besoin que le pouvoir arrête le pouvoir, qu'il puisse y avoir ce dialogue. Et sous la Ve République, même le général de Gaulle reconnaissait la nécessité d'un dialogue avec son groupe majoritaire. Aujourd'hui, ça a disparu, on a un groupe qui est majoritaire, qui considère qu'il est au service du président,
Et est-ce qu'un
et il n'y a plus
groupe
de débat.
vote unanimement?
Bien sûr, le groupe majoritaire, non, alors, le groupe majoritaire, oui, c'est assez terrible. Et là, ils viennent de signer une charte pour s'obliger à un mandat impératif. Ils voteront toujours comme le demande le gouvernement. Ça veut dire que ce sont des gens qui, par définition, vous disent qu'ils ne serviront à rien. C'est absolument à l'opposé de la conception que je me fais du mandat parlementaire. La Constitution
Vous
dit que
pourriez
tout
voter
mandat a.
contre quelque chose
Mais moi, il
demandé
m'est
par les
arrivé
LR.
de voter. Des propositions du gouvernement, des propositions de la France insoumise, d'avoir de poser des amendements qui étaient défendus par le Front national. Enfin, moi, je suis un parlementaire libre et je vote parfaitement en conscience à chaque fois. Donc, je ne regarde
Quand
pas
quelque
la
chose pour
position
vous est
des
bien
groupes.
ailleurs, vous le prenez.
Mais évidemment, de quelques groupes que ça vienne. L'important, c'est que ce soit en accord avec ma conscience et que je puisse toujours justifier de mon vote auprès de mes électeurs dans cette deuxième circonscription d'Eure-et-Loir. J'ai toujours réagi comme ça, avant d'appuyer sur le bouton pour voter pour, contre, abstention. Je me dis, est-ce que je suis capable
Il y a trois
demain,
boutons.
oui, pour, contre, abstention, est-ce que je suis capable demain d'expliquer mon vote, de le justifier auprès des électeurs que je rencontrerai? Ça a été le cas notamment sur des sujets très intimes comme, enfin, appelant la conscience, comme la réduction du délai de enfin, l'allongement, pardon, du délai d'IVG qu'a fait voter le gouvernement, le groupe En Marche, des sujets sur lesquels je n'étais pas d'accord. On se pose forcément la question, qu'est-ce que je réponds à moi, comment je justifie mon vote? Ça doit servir à ça, un député. C'est pas le pion d'une formation politique. Et c'est le
Et est-ce qu'il y a des discussions entre collègues quand justement une question comme ça se pose?
Il y en a partout. Moi, la discipline, la règle, pardon, dans mon groupe, c'est qu'il n'y a pas de discipline de groupe. C'est un mot qui n'existe pas, a fortiori sur les sujets
Mais vous pouvez même débattre entre vous.
un peu de conscience. On débat toujours entre nous. Mais ce débat, il est important et on a besoin de députés qui soient indépendants, notamment de la majorité. Vous savez, la crise des Gilets jaunes, elle aurait pu être évitée si on avait eu une majorité composée de députés utiles qui ne se sentaient pas les petits soldats de M. Macron sélectionnés sur Internet pour leur capacité à être des bons petits soldats. La crise des Gilets jaunes, elle est née de quoi? Elle est née de l'augmentation brutale de la CSG sur les retraités, alors que ça faisait déjà 6 ou 7 ans que les retraites n'avaient pas augmenté, avaient même diminué à cause d'une augmentation de la CSG sous François Hollande. Et deux, elle est née d'une augmentation des taxes sur le carburant qui a été programmée à hauteur de 15 milliards en 5 ans. C'était de la folie furieuse. Tous les groupes politiques, de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par les Républicains, évidemment, principal groupe d'opposition à l'Assemblée, on dit au président, on dit au gouvernement, vous allez dans le mur, c'est de la folie ce que vous proposez, c'est 15 milliards, c'est la moitié du produit d'impôt sur les sociétés. C'était énorme. Eh bien, ils ne nous ont pas écoutés. Ils ont écouté les oppositions, au lieu d'avoir leur majorité écrasante et un peu arrogante, on n'aurait pas eu la crise des Gilets jaunes.
Dans votre livre Les Liquidateurs, qui est paru chez Robert Laffont, vous disiez que vous souhaitiez la création d'un fonds d'investissement privé,
Oui, un fonds souverain pour
un
sauver
fonds souverain.
notre industrie. Vous voyez, j'étais alors.
Et vous espériez aussi qu'il y aurait désormais un ministère de l'Industrie.
Oui, bon, on verra. On sait rien de ce que va faire M. Macron pour l'instant, puisqu'à l'heure où nous parlons, nous enregistrons cette émission, là, toujours pas de gouvernement. Bah, ce que j'ai fait sur l'industrie, je pense que pour le coup, c'est l'illustration même qu'on peut être un député pas béni, oui, du tout. Président d'une commission d'enquête, vous êtes obligé d'être dans un rôle critique, hein, si vous avez des moyens pour investiguer et au bout du compte, enfin, dénoncer ce qui n'a pas fonctionné et faire des propositions. Bien, ce que j'observe, c'est que autant j'ai été un peu radical, un opposant, enfin, oui, mais ce que je remarque,
Ce
c'est que
sont
ça a
des
été
remarques.
mon adversaire En Marche dit que je suis radical. Bah, oui, quand on est un président de commission d'enquête, on est là pour dire les choses. On n'est pas là pour les cacher sous le tapis. Mais ce que j'observe, c'est ce qui est le plus intéressant, c'est que le gouvernement m'a suivi, que M. Macron m'a suivi, notamment sur une de mes principales propositions, c'était le qu'on tire la leçon du rachat d'Alstom par General Electric et qu'à l'avenir, on demande le gouvernement en France contrôle et des moyens de contrôle pour renforcer du rachat des entreprises françaises stratégiques. C'est une proposition qui a été reprise in extenso par le gouvernement de M. Macron. Je dénonçais la vente d'Alstom comme étant une perte de souveraineté incroyable, puisque c'était notre incapacité désormais à faire les turbines de nos centrales nucléaires, les turbines de notre porte-avions ou de nos sous-marins. Eh bien, j'observe que cette vente décidée par Macron en 2015 a été annulée par Emmanuel Macron au début de sa campagne présidentielle, puisqu'il a même lancé sa campagne présidentielle à Belfort en disant OK, je rachète Alstom Power et je relance du nucléaire. Donc, vous voyez, être un député qui n'est pas godillot, qui n'a pas les deux pieds dans le même sabot, c'est utile à l'intérêt national. Pour moi, ce qui compte, c'est l'intérêt national, c'est pas l'intérêt des partis politiques.
Vous aviez une base de travail protégée, libérée, rassemblée.
Oui, bah, la question de la protection, elle reste essentielle et c'est une
La
proté et...
sécurité au cœur des débats actuellement
Oui, alors
avec
c'est la question de la sécurité. Bah, vous savez, je pense qu'on va avoir deux,
la mort du jeune Aleno, c'est quand même assez
on
terrible
va avoir
et.
deux, trois grands chantiers dans les quinquennats qui viennent. Cette question, effectivement, de l'insécurité, il y a un effondrement de l'autorité dans notre pays. Il y a un chiffre qui parle, qui est terrible, c'est 30 000 agressions par an de policiers et de gendarmes. Ça veut dire 100 agressions, 100 faits chaque jour d'agressions d'un policier ou d'un gendarme. Ça veut dire que les petits voyous ou les gros voyous n'ont plus peur de l'uniforme. Pourquoi ils n'ont plus peur de l'uniforme? Parce que la justice, malheureusement, est... Alors, c'est des questions de moyens, d'une part, mais c'est aussi une question sans doute d'idéologie, c'est une question de loi pénale
Est-ce qu'il pense qu'il n'y aura pas de sanctions, tout
Voilà.
simplement?
Donc, je pense que le grand sujet, c'est de redonner de la certitude de la peine. Et ça, c'est à la loi pénale de le prévoir. Donc, je pense que c'est un des grands sujets. Ça sert à rien de créer des effectifs supplémentaires dans les forces de l'ordre si derrière, il n'y a pas une loi pénale appliquée avec sévérité. Donc, ça, c'est le premier grand sujet. Pour remettre de la sécurité, il faut redonner des moyens de fermeté à la justice.
Et vous mettez aussi l'explosion des squats dans l'insécurité?
Oui, évidemment, c'est cette impuissance aujourd'hui de la justice à exprimer une quelconque autorité. C'est pour ça que c'est une question de moyens, mais c'est aussi une question de philosophie dans laquelle on rédige la loi pénale. On ne doit pas donner raison systématiquement aux voyous, aux gens qui ne respectent pas la loi. Aujourd'hui, on protège davantage le droit des délinquants que le droit des victimes. C'est évidemment absolument intolérable. Ça, c'est
La
le premier.
loi Allure de 2014 rendait l'expulsion illégale.
Oui, c'est tout à fait. C'était sous François Hollande, mais tout ça a été que d'ailleurs très peu modifié. Le deuxième grand sujet, je pense, des 5 ans qui viennent, ça va être la question du pouvoir d'achat, parce que elle a déjà commencé, mais je pense que nous ne sommes qu'au début du problème, parce que pour l'instant, le gouvernement, avant l'élection présidentielle, a subventionné notamment la question de l'énergie pour essayer que la situation ne soit pas trop brutale. Mais donc en France, on nous parle pour l'instant de 5% d'inflation. En Europe, c'est 8%, donc il n'y a aucune raison que ce ne soit pas à 8% d'inflation. L'Espagne est même sur une tendance à 12% d'inflation. Les Américains ont été à 8,5%. Et je pense que nous sommes qu'au début.
À votre avis, ça va continuer et fortement
Ça va
donc.
continuer durablement et ça peut s'accélérer, notamment si M. Poutine décide de priver l'Europe de gaz russe. On va avoir une explosion des prix de l'énergie. Vous voyez bien, avec une tendance d'inflation qui se rapproche des 10% annuels, vous avez un risque d'explosion de la pauvreté dans notre pays, chez les retraités modestes, avec 900, 800, 900, 1000 euros de retraite par mois. La retraite moyenne est autour de 1100 euros en France. Hein. La situation va devenir très vite intenable pour les gens. Idem pour les bas salaires. La situation va devenir vraiment intenable. Et puis l'autre conséquence qu'on va avoir, cette inflation, c'est l'effondrement de notre appareil industriel. On a un chiffre on sait d'ores et déjà que l'indice des prix, l'inflation dans l'industrie, elle a été de 30% en France. De 30%. Donc ça veut dire que ce sont des prix qui ne sont plus soutenables et qui vont finir de tuer notre industrie. On nous parle beaucoup de réindustrialisation. Une fois encore, c'est un des sujets sur lesquels
C'était votre souhait.
j'ai beaucoup travaillé ces 5 dernières années avec un certain succès pour obliger le gouvernement à mettre en place de nouveaux outils. Mais on a eu un premier choc pétrolier. C'est la désindustrialisation de la France, elle s'est faite en deux temps. D'abord, les années 70, le choc pétrolier.
74.
Le choc pétrolier qui rend nos coûts de production absolument non compétitifs et donc effondrement de notre industrie. Et le deuxième choc, c'est le tournant des années 2000 où on a en même temps les 35 heures en France, qui veut dire une explosion du prix de la production en France, et l'élargissement aux pays d'Europe de l'Est qui, eux, produisent à 10 fois moins cher du temps de travail, du coût de main-d'œuvre. Donc
Donc,
la
dans ce
rencontre
cas-là, on ne
entre les
peut pas
deux,
lutter.
ça a été le deuxième choc industriel, la deuxième extinction, j'ai envie de dire, on parle beaucoup des temps d'extinction pour l'humanité, pour la biodiversité. La deuxième grande extinction de notre industrie, ça a été ces années 2000. Je crains que nous soyons à la veille d'une troisième extinction de notre industrie à cause de cette inflation et de cette hausse des prix de l'énergie en France.
Vous parliez à l'instant de la privation éventuelle par M. Poutine du gaz. Mais est-ce que ça ne peut pas également être envisageable de l'autre côté si l'Europe décide de ne plus importer le gaz russe?
En fait, les deux sujets sont liés. Aujourd'hui, effectivement, moralement, il faudrait évidemment décider de ne plus importer de gaz russe. Sauf que on s'est mis dans une situation de dépendance à la demande des écologistes, à la demande des Allemands, surtout des écologistes allemands. Vous savez que les énergies renouvelables, c'est très bien, sauf que c'est intermittent. Donc, la nuit et à certaines
Quand il n'y a pas
saisons,
de
on connaît
vent.
parfaitement tous les cycles du vent à l'année, selon les saisons. Quand il n'y a pas de vent, qu'il n'y a pas de soleil, il faut une autre source d'énergie. Et en plus, le gros problème des énergies renouvelables, c'est qu'elles ne produisent pas à l'heure où il faut et aux saisons où il faut. C'est-à-dire que le soleil, ça marche l'été. Alors, ce n'est pas l'été que vous vous chauffez le plus. Ce n'est pas au mois d'août que
Et on ne peut pas
l'industrie.
stocker.
C'est pas, et on ne peut pas stocker cette énergie électrique. Et c'est pas au mois d'août que l'industrie française travaille le plus. Donc en fait, on a un vrai problème d'adéquation de l'offre à la demande. Donc il faut une autre source d'énergie pour pallier ces intermittences. Cette autre source d'énergie, c'est soit le nucléaire, soit le gaz. Sur la foi du lobbying des Verts allemands, merci Monsieur Cohn-Bendit, notamment pour l'importation de toutes ces idées en France, les Allemands ont renoncé au nucléaire et ont rendu l'Allemagne dépendante du gaz russe. Et comme les Allemands avaient très peur que, s'engageant dans cette voie, ils donnent aux Français, avec le nucléaire, un avantage comparatif en termes de compétitivité pour notre industrie, puisqu'on importe du gaz, eux importent du gaz russe dont le prix s'envole en ce moment, alors que nous, on continue, un peu moins malheureusement, puisqu'on a fermé une centrale, etc., mais on produit quand même de l'électricité grâce au nucléaire, qui coûte beaucoup moins cher. Et donc les Allemands ont obtenu au sein de l'Union européenne quelque chose de très astucieux pour eux, qui est de lier le prix de l'électricité au prix du gaz. C'est une
Mais ça
folie
a été une
furieuse.
décision unilatérale?
Non, c'est une décision que malheureusement la France a acceptée. En tout cas, il y a une urgence aujourd'hui absolue. J'ai fait une tribune il y a quelques jours dans le Figaro avec 50 députés des Républicains pour demander en urgence au président de la République de décorréler, il est président de l'Union européenne, il faut que ça serve à quelque chose, de décorréler le prix de l'électricité et le prix du gaz. Si on a un prix du gaz qui est multiplié par 10, on ne va pas multiplier en France le prix d'électricité par 10 alors qu'on sait la produire exactement toujours au même prix. C'est une aberration, c'est un scandale. Si on veut faire un geste pour sauver le pouvoir d'achat des Français et pour sauver la partie de notre industrie qui fonctionne à l'électricité, au gaz, eh bien, il faut d'urgence décorréler ces deux prix du gaz et de l'électricité. C'est vraiment l'urgence c'est la première mesure utile, massive pour le pouvoir d'achat des Français.
Cette émission touche à sa fin. Monsieur Marleix, merci d'être venu dans les studios de Radio Grand Ciel. Roland Richard a enregistré cette émission et la réalisera pour vous, chers auditeurs. À bientôt sur les ondes pour une nouvelle émission concernant les législatives de la deuxième circonscription de Dreux. Au revoir, Olivier Marleix.
Au revoir, Marie-France Baroche.